La première chose, je voudrais m'excuser de ne pas parler en anglais parce que je pense que ce sera plus productif de parler en français, malheureusement. C'est le côté franco-français de l'Europe. Alors, je commence par dire très rapidement les deux points sur lesquels je vais insister, peut-être trois si j'ai le temps. C'est un, revenir sur les traits essentiels de la nature de cette crise. Le deuxième, c'est de dire où va la crise, enfin, quelle est sa trajectoire. Et le troisième, c'est de voir un petit peu comme dans quel cadre vont se situer les luttes sociales après l'éclatement de cette crise. Alors, sur le premier point, bon, j'en ai brillé rapidement, mais je pense qu'on peut être d'accord quand on se situe dans le champ d'une interprétation marxiste, c'est d'insister sur le fait que ce n'est pas véritablement une crise seulement financière, mais que c'est essentiellement une crise qui met en cause, enfin qui révèle les contradictions tout à fait profondes du système capitaliste. Je pense que ce point-là ne fait pas débat et qui nécessite d'être approfondi. Alors, l'essentiel, il me semble, s'il fallait résumer en une phrase ce que manifeste cette crise, c'est l'idée qu'aujourd'hui, d'une manière encore plus nette que ça n'a jamais été le cas dans le passé, le capitalisme n'est pas capable, ne peut pas fonctionner mieux en satisfaisant les besoins sociaux de la majorité de l'humanité. C'est-à-dire que ce que cette crise révèle, c'est que la recherche effrénée, disons quasiment obscène, du profit se fait au détriment de la satisfaction de besoins sociaux tout à fait élémentaires, et aussi se fait au détriment de la prise en charge réelle des défis liés au changement climatique. Bon. Et donc, d'une certaine manière, ce que ça révèle, et y compris la croissance de cette bulle financière, c'est que on a mis la barre si haut en termes de rentabilité qu'on va chercher cette rentabilité de manière artificielle, parce que la satisfaction des besoins sociaux élémentaires, que ce soit dans les pays du Nord ou du Sud, pour employer cette expression vague, ne sont pas susceptibles de rapporter une rentabilité suffisante et conforme à ces normes qui ont augmenté. Et donc, la base de ce schéma, c'est une victoire que le capitalisme a remportée d'une certaine manière après la récession de 1974-1975, victoire au sens où il a réussi de manière quasiment universelle à faire reculer le salaire et à faire reculer la part qui revient aux salariés dans la production des richesses qu'ils produisent eux-mêmes. Ça, c'est une tendance vraiment de fond qui s'est mise en place depuis le début des années 80. Et par rapport à cette tendance, a créé une espèce de cercle vicieux où la recherche du profit maximum, comme elle ne trouvait pas, disons, de besoins palpables, solvables, de demandes solvables correspondants, a fabriqué une espèce de fuite en avant du côté financier, avec deux aspects. Une bulle financière où on recherche des rentabilités très fortes, où on pense que c'est une nouvelle manière de créer de la richesse, et de l'autre aspect, un surendettement des ménages, notamment dans les pays comme les États-Unis. C'est une espèce de fuite en avant qui consiste à essayer de surmonter les difficultés intrinsèques du système. Tout ça a explosé du côté de la finance, mais ce qui est mis en cause, c'est le fonctionnement de ce système, et ce que ça, la dimension de crise tout à fait fondamentale, c'est l'idée qu'aujourd'hui, ce qui est révélé, c'est que le capitalisme, son mode de fonctionnement, son mode, disons presque, on pourrait dire, d'efficacité, est de plus, centralement, globalement, frontalement, opposé aux besoins de l'humanité. Donc c'est une crise très profonde dont il faut absolument mettre en avant, je pense, justement, le côté qui est intrinsèquement lié au capitalisme. C'est-à-dire, c'est pas un capitalisme dénaturé par les traders, c'est un vrai capitalisme qui fonctionne selon ses propres lois. Ce que nous avons en face de nous, c'est le pur capitalisme. C'est pour ça que j'ai titré mon livre comme ça. C'est pas un capitalisme qui a été parasité par de méchants financiers. Deuxième point que je vais aborder, alors peut-être plus en détail, c'est où on se situe, quelle est la trajectoire possible dans cette crise. Bon, il me semble, alors peut-être que j'anticipe un tout petit peu sur la conjoncture, mais on est effectivement, et vous avez sans doute entendu ça dans la presse, comme en France et dans tous les autres pays, on est dans une période où la récession est en train de se retourner, c'est-à-dire que ça cesse de reculer et qu'on célèbre déjà la reprise. Ça, je pense que c'est vrai. Enfin, je veux dire, on va pas dire aller contre la réalité des chiffres qu'on voit apparaître dans les statistiques, mais ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une période où on va voir les effets décalés de cette crise, et notamment les effets sociaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les effets sur l'emploi, sur les salaires, globalement, alors, c'est difficile de dire ça parce qu'effectivement, il y a déjà eu des effets sociaux très négatifs, mais sont en dessous de ce que nécessite ce dont a besoin le capitalisme pour retrouver ce mode de fonctionnement business as usual, pour parler un petit peu anglais. Et son seul projet, c'est ça. Et je pense qu'il faut montrer que dans la situation actuelle, on a un discours disant plus jamais ça, on va revenir à un capitalisme régulé, où on va contrôler la finance, tous les sommets discutent sur ces choses comme ça, notre président de la République en France est particulièrement particulièrement éloquent sur cette question. Il faut bien voir qu'il s'agit d'un simulacre où le projet réel est de lâcher du lest, de faire quelques concessions pour exactement se donner le moyen de repartir comme avant. Parce que, et c'est ça le point important, ils n'ont pas réellement ni la volonté, ni la possibilité même de remettre en place une configuration alternative. Mais pour prendre un exemple, on a sauvé les banques, mais on l'a fait sans leur imposer aucune règle nouvelle au moment même où on leur a donné de l'argent, alors que c'était un moment rêvé, disons, pour leur imposer de nouvelles normes, s'il s'agissait de ça. Tous les textes, un petit peu, disons, des lieux de réflexion stratégique de la bourgeoisie, disent aujourd'hui, il faudra, dès que la reprise recommence, faire deux choses, revenir sur un certain nombre de mesures, comme le chômage partiel, qui ont été prises dans l'urgence, mais qui sont, pour reprendre un terme du FMI, intrinsèquement réversibles, c'est-à-dire qu'il faudra vite revenir dessus, et deuxièmement, relancer toutes les réformes structurelles, enfin les réformes d'ajustement structurel qui sont les mots de la politique néolibérale. Donc leur projet est effectivement celui-là. Mais il y a deux ou trois problèmes qui font que ça ne peut pas repartir comme avant pour des raisons de fond qui sont d'une part que l'arrangement, et ça Chris en parlera tout à l'heure, mais l'arrangement de l'économie mondiale avec la Chine qui exporte et ensuite qui finance le déficit des États-Unis, cet arrangement-là est complètement détraqué. C'est-à-dire qu'il y a les doutes les plus grands qui règnent sur la possibilité de le remettre en route. Le deuxième point noir, c'est le fait que pour éponger la crise, pour empêcher qu'elle s'aggrave, il y a eu des déficits budgétaires considérables et que déjà, on voit apparaître, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque le ministre des Finances des Pays-Bas a indiqué que son objectif c'était de réduire de 20% les dépenses publiques. Et effectivement, ce qui m'entend au nez, c'est de ce côté, disons, budgétaire, c'est des politiques extrêmement de régression sociale, extrêmement forte contre les dépenses sociales, contre la protection sociale. Et troisième point, la vraie difficulté aussi, c'est que spontanément, le capitalisme va chercher à retrouver sa rentabilité qui a été mise en cause par la crise, et les licenciements qui n'ont pas eu lieu, les blocages de salaires qui n'ont pas encore eu lieu, enfin pas une échelle suffisante justement pour répondre aux chocs qu'ils ont subis, ils sont devant nous. C'est-à-dire qu'on est dans une période de confrontation sociale et aussi à terme une période où le capitalisme va fonctionner de manière extrêmement chaotique parce que les conditions, disons, de croissance fondées sur l'endettement, sur un certain une certaine configuration de l'économie mondiale, ont été remis en cause durablement par la crise. Donc, en gros, l'idée aussi qui est extrêmement importante, c'est que d'une certaine manière, le capitalisme n'a pas d'alternative. Il n'a pas la possibilité, y compris, il refuserait évidemment de revenir à un capitalisme comme il a pu fonctionner pendant les années 60 ou 70. Et donc, sa seule solution, c'est d'aller encore plus loin dans la voie néolibérale. C'est d'ailleurs la seule solution, et c'est ça son problème, disons, de perspective, c'est de refaire tout ce qui a conduit à cette crise, parce qu'il n'y a vraiment pas d'alternative. Et c'est ce qui explique que l'alternative, entre guillemets, social-démocrate, se réduise, parce qu'effectivement, on est dans une situation où l'idée d'un capitalisme un peu régulé, à visage humain, etc., a un espace qui est dorénavant complètement réduit. Et donc, il y aura peut-être la seule nouveauté qu'on peut imaginer, c'est le développement partiel et insuffisant de ce qu'on appelle le capitalisme vert, c'est-à-dire une nouvelle zone d'investissement censée développer des énergies alternatives ou des méthodes de production moins consommatrices d'énergie. Donc, partiellement, ça peut donner une issue, dégager, disons, une branche qu'on pourra rentabiliser, y compris rentabiliser par l'État, par des subventions de l'État. Bon, mais ça n'est pas une réponse à la hauteur du changement climatique, et ça ne peut être une réponse partielle qui sera, submergée par les autres problèmes en termes de demande, de création de débouchés pour le capitalisme. Donc, en conclusion, je pense qu'on est dans une période qui va être on peut dire que c'est une vision un peu pessimiste, mais je pense qu'elle est réaliste, c'est-à-dire qu'on va être dans une période où dès que les choses se seront un tout petit peu arrangées, il va y avoir de la part du capitalisme une offensive très violente pour récupérer ce qu'elle a perdu, pour rattraper, disons, le chemin parcouru, et encore une fois, sans perspective alternative, sans vraie volonté d'autorégulation ou d'autoréforme. Et donc là, on a une question qui est nouvelle, on peut dire que c'est une nouvelle période historique qui s'ouvre d'une certaine manière, parce que jamais autant, même dans les années précédentes, sous la période néolibérale, jamais autant l'étroitesse, disons, du champ du réformisme ne s'était réduit de cette manière-là. Et donc, on a une responsabilité qui est très grande. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on va avoir deux choses à faire qui sont apparemment pas les mêmes choses, mais où la vraie question pour les socialistes révolutionnaires, c'est de faire le lien entre ces deux dimensions. La première chose, il va y avoir des luttes défensives contre les atteintes, contre les licenciements sur les salaires, contre les services publics, contre la protection sociale, contre les droits sociaux, contre les revenus des chômeurs ou des précaires, où il va y avoir une offensive très forte. Bon, par exemple, en France, la discussion porte sur une mesure qui ne rapporterait pas grand-chose, mais qui est très symbolique et qui montre la dureté, disons, de cet affrontement social à venir, c'est-à-dire que le gouvernement veut, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, faire payer des impôts sur les indemnités qu'on verse aux salariés qui ont été accidentés dans leur travail. Bon, et qui ont réussi à le faire reconnaître par la sécurité sociale. Donc ils étaient dispensés, enfin ils payaient pas d'impôts sur ces revenus. Le gouvernement trouve juste et normal qu'ils payent des... Bon, et symboliquement, on voit bien, c'est-à-dire les salariés qui se sont fait esquinter dans leur travail, on va demander de payer des impôts, on va avoir ce type de dureté sociale dans la période qui vient. Et donc des luttes qui sont des luttes défensives, des luttes contre cette offensive de protection des droits acquis qui va être une lutte, effectivement, on le voit en France, par exemple, les luttes sur les licenciements sont des luttes, pour l'instant, relativement défensives. En même temps, il faut expliquer que la seule perspective, et c'est une difficulté, parce qu'il n'y a pas de solution facile. La seule perspective alternative, c'est effectivement une perspective anticapitaliste qui remet en cause très profondément la logique de ce système, c'est-à-dire qui se battent contre la répartition des revenus au profit des actionnaires, qui se battent contre le droit de licencier quand on fait du profit, etc. Et cette perspective anticapitaliste générale, qui se bat aussi contre quelque chose que j'ai oublié de citer, mais qui va probablement prendre une ampleur différente selon les pays, mais qui va être une manière de régler en partie le problème du déficit budgétaire, et ça va être la privatisation encore accélérée de secteurs comme la santé, comme les retraites, en généralisant les fonds de pension, parce que d'une certaine manière, c'est une réponse, puisque ça permet à la fois de réduire les dépenses sociales de l'État et de créer pour les capitaux privés un nouveau type de débouchés et de possibilités d'investissement. Et donc notre défi aujourd'hui, la chose la plus difficile, je pense, c'est de faire le lien, et c'est ça qui est compliqué, et il ne faut pas se voiler la face, c'est de faire le lien entre ces luttes immédiates de défense des intérêts de la majorité de la population et la perspective anticapitaliste, en trouvant des manières de mettre en avant un certain nombre de revendications qui fassent un pont entre ces luttes immédiates et une perspective. Et je pense que ce qui manque, parce que ça aussi c'est notre travail à faire, ce qui manque dans l'analyse de ce qui bloque, de ce qui fait obstacle aux luttes sociales en Europe, puisque c'est un plan, je termine là, en Europe, c'est justement la question de l'absence de perspective, à la fois sur le terrain politique, mais même aussi de perspective de société alternative. Et c'est ce point-là que les révolutionnaires ont pour fonction de jeter. Je pense qu'ils ont un rôle tout à fait important, peut-être plus important que ça n'a jamais été, dans une période qui est vraiment une période, de crise très profonde du capitalisme et de crise où ce système va réagir avec une très grande brutalité et une très grande dimension de régression sociale. Voilà, je vous remercie.
Thank you, Michel. Next speaker is Chris Harmon, and he will talk more specifically about the relationship between the US-American economy and the Chinese economy.